Secret d'État, chapitre 7. Le lendemain, à 10 heures, je montai en voiture, dans un landau découvert, à côté du premier ministre. Nous allions voir le roi. J'avais endossé cette fois la redingote officielle. Le baron de Herner était dans le même costume. Je constatai avec un certain plaisir que mon haut de forme, dont c'était d'ailleurs la première sortie, était plus brillant que le sien. J'étais un peu surpris de l'abandon avec lequel me parlait le premier ministre. Il faut croire que j'inspirais vraiment de la confiance aux gens. Le comte de Tolberg m'avait parlé avec la même liberté. Le hasard m'avait amené à être le confident de ses deux ennemis. Comment tout cela allait-il tourner? Pour le moment, je m'abandonnais à une quiétude paresseuse. Le jour où un conflit se produirait, il serait peut-être temps de s'en préoccuper. En prévision de complications, qui n'arriveraient peut-être jamais, je n'allais pas gêner par un air de trop grande réserve l'expansion dont ce grand personnage voulait bien me favoriser. Le landau traversa la ville en passant sous une vieille tour qui commandait une des entrées. C'est par là qu'avait pénétré dans la ville, à je ne sais plus quelle époque, des soldats étrangers de je ne sais quelle nation. Toujours est-il qu'on s'était battu dans le faubourg, qu'il était mort un grand nombre d'hommes, et que les cloches, comme dans toutes les histoires de ce genre, n'avaient cessé de sonner. La campagne était très paisible, coupée de canaux et de longues allées d'arbres. De temps en temps, nous croisions un bicycliste obstiné, ou un grand tombereau attelé de 4 bœufs, ou une voiture de maraîcher que traînaient 3 chiens agiles. Le premier ministre me parlait du roi et se réjouissait qu'il fût bien portant. Si par malheur il lui arrivait un accident, le royaume passerait entre les mains de sa belle-sœur, la femme de son frère défunt, qui gouvernerait au nom de son fils aîné pour l'instant de 14 ans. Et cette princesse, qui venait des États de l'Allemagne, amènerait avec elle toute une séquelle de gens de son pays. Le baron de Herner me surprenait. Il dérangeait fortement la conception que je m'étais faite des hommes d'État, que je me représentais comme des personnages mystérieux et fermés, évitant d'employer un langage simple et net pour parler des affaires publiques. Celui-ci n'y allait pas par 4 chemins, et me donnait carrément son avis sur les hommes et sur les choses. En sortant d'une allée d'arbres, j'aperçus, tout à coup sur une sorte de monticule de verdure, un château d'architecture antique, mais qui était un château reconstitué, ainsi qu'en témoignait la blancheur de sa pierre. C'était la résidence d'été. Je sentais toujours en moi beaucoup de curiosité, mais aucune émotion. J'avais désormais ma petite habitude des grands de ce monde. C'est curieux comme on prend vite pied dans les grandeurs. Nous étions entrés dans une cour d'honneur et nous allions gravir le perron qui conduisait au salon de réception quand nous entendîmes un « Hep !» qui n'avait rien de protocolaire. C'était le roi qui nous appelait d'une des salles du rez-de-chaussée où il faisait de la photographie. Je reconnus le visage du monarque, dont j'avais vu plusieurs portraits. Il nous invita d'un geste à entrer dans son atelier. Il était vêtu d'une culotte de drap beige, de molletières de cuir fauve et d'une chemise de soie écrue, dont les manches étaient relevées jusqu'au coude. Sans la moindre formule de bienvenue, et en s'adressant à moi comme s'il me connaissait depuis longtemps, il nous montra des épreuves qu'il venait de terminer, dont l'une représentait un coin de forêt et l'autre un cheval en liberté, en train de bondir dans un pré. Moi, je regardais ces épreuves avec une attention exagérée, mais je ne pensais qu'à examiner Charles XVI, qui m'apparaissait comme un bon garçon enjoué. Je crois que je n'aurais vu en lui rien d'autre si l'opinion favorable que m'avait exprimée sur son compte le jeune Tolberg ne m'avait prévenu en sa faveur. Il y avait chez ce gros homme beaucoup plus de philosophie que d'insouciance. Ou plutôt, c'était une insouciance naturelle qu'encourageait sa volonté et sa raison. Il pensait qu'il ne fallait pas agir au-delà du nécessaire, qu'il fallait plutôt surveiller les événements que les provoquer. Il s'occupait des affaires de l'État juste assez pour ne pas les négliger. D'ailleurs, il avait trouvé chez Erner une activité très précieuse, du moment qu'il était là pour la réfréner. Je ne sais pas s'il s'était fait toutes ces réflexions, et s'il s'était volontairement conformé à cette philosophie. Il me semble plutôt qu'il l'avait instinctivement adoptée. Je n'ai jamais vu un homme capable d'un travail aussi extraordinaire et aussi rapide. Il lui est arrivé dans certains moments, où il y avait intérêt à se renseigner rapidement sur la situation, de faire avec moi l'analyse dont j'étais chargée, et il me laissait littéralement en route, moi qui ai pourtant le travail facile. Et cet homme, merveilleusement doué pour accomplir en 2 journées un travail surhumain, était capable également de rester des mois entiers dans l'inaction, à vivre une vie presque animale, sans songer à rien et sans avoir le moindre remords de sa paresse. Il baissa sans façon ses manches sur ses poignets, remit tout seul une veste de chasse qu'il avait posée sur une table. Erner, qui connaissait ses habitudes, ne fit aucun mouvement pour l'aider à l'endosser. Puis nous sortîmes tous les trois dans la cour. Il me regarda un instant, me demanda comment je trouvais Schönberg. Puis il s'éloigna avec son ministre pour causer des affaires courantes. Je les regardais marcher l'un à côté de l'autre. La marche du roi n'avait rien de vulgaire, ni de majestueux. On l'eût pris pour un propriétaire de campagne qui parlait affaires avec un notaire de la ville. Mais le propriétaire et le notaire dégotaient assez bien. Et tout à coup, au moment de prendre congé, après que cet homme en veston eut tendu la main à cet homme en redingote, il y eut, dans la simple différence des saluts, le salut profond de celui-ci et une inclinaison de tête de celui-là, il y eut quelque chose de barbare et d'antique, une subite inégalité que leur promenade côte à côte de tout à l'heure rendait étrange et inconcevable. Je restai donc seul avec cet homme, mon semblable d'aspect, et qui se trouvait, en vertu de certaines conventions, un être surnaturel. Il passa familièrement sous le mien son bras symbolique et m'entraîna vers la salle à manger. Ce fut pour moi une après-midi admirable. Une de ces journées où l'on fait feu des 4 pieds pour éblouir quelqu'un, avec l'angoisse de tout gâter soudain par une parole inférieure. C'est une conquête que l'on veut faire par des moyens loyaux et sans tricherie pour avoir une sorte de contrôle de sa propre valeur. J'étais obligé, de temps en temps, de me répéter, pour ne pas l'oublier, qu'il était un roi. Il avait lu plusieurs de mes livres de prédilection, mais il y en avait quelques-uns qu'il ne connaissait pas encore. Je pus lui en parler. Et quand je lui récitai certains des passages que j'aimais, nous éprouvâmes de ces émotions communes qui vous rapprochaient tant. J'étais très exalté et un peu inquiet. Je me disais que ce roi qui s'ennuyait et qui paraissait se plaire en ma compagnie me garderait peut-être auprès de lui. Or, c'était un compagnon un peu fatigant à cause des frais continuels qu'il fallait faire. J'avais peur de ne pas pouvoir me soutenir et de lui plaire moins. Après déjeuner, nous étions allés nous promener dans un jardin inculte dont le roi aimait beaucoup la sauvagerie, soigneusement entretenu par un habile jardinier. Nous y passâmes près de 3 heures à dire des vers et à raconter des histoires héroïques. Quand nous rentrâmes dans la maison, je vis qu'un petit tonneau de promenade était attelé dans la cour. « Je vais vous reconduire jusqu'aux portes de la ville, » me dit Charles XVI. « Je n'entre pas à Schönborg dans un tel équipage. » Comme nous allions monter en voiture, un homme d'une 40aine d'années, très distingué d'allure, entra dans la cour. Le roi alla à lui avec empressement et lui serra la main avec une vive amitié. Ils se dirent quelques mots et revinrent lentement vers la voiture. Le roi était tout songeur. Il me présenta à son ami, qu'il me nomma, le comte de Ehrenstein. Lui dit « À tout à l'heure » et monta en voiture avec moi. Il ne me disait rien. Je ne savais si je devais me taire ou s'il fallait lui parler. Je lui fis remarquer que le paysage ressemblait bien au cadre d'un roman dont nous avions évoqué certains passages. Il approuva avec un peu trop de précipitation pour un homme qui s'intéresse vraiment à ce qu'on lui dit. Quand nous arrivâmes à une centaine de pas de la vieille porte de ville, le roi arrêta la voiture et me dit qu'il me ferait chercher un de ses jours prochains. Je le suivis un instant du regard, puis je vis qu'au lieu de rentrer au château, il quittait la grande route et prenait un petit chemin sur la gauche. Où allait-il? Alors, quoi? Charles XVI me faisait déjà des cachotteries. Chapitre 8. Ce comte de Ehrenstein, me dit le premier ministre qui m'avait interrogé d'un ton adroitement aisé et naturel sur mon entrevue avec le roi. Ce comte de Ehrenstein est une espèce de misanthrope, sans ambition apparente, qui est très lié avec sa majesté. Il est le confident de certaines affaires sentimentales de sa vie, et d'une liaison que, cela va sans dire, nous connaissons aussi. C'est une histoire qui remonte à très loin. Le roi ne vous en parlera pas, même s'il vous accorde sa confiance amicale, comme il a l'air d'en prendre le chemin. Je n'avais cependant pas trop insisté sur le plaisir que Sa Majesté semblait avoir eu à me voir. Un secret instinct m'avertissait que cette amitié du roi pouvait porter ombrage au premier ministre. Mais il savait à quoi s'en tenir, et le ton simple et dégagé qu'il avait pris pour m'en parler ne voulait pas précisément dire qu'il n'attachait à ces marques d'amitié aucune importance. Le roi, même s'il se lie avec vous, ne vous parlera pas de cette histoire que jadis, dans le feu de sa passion, il a raconté au comte de Ehrenstein. Il ne vous en dira rien, non par manque de confiance, mais parce que maintenant ce n'est plus qu'un devoir douloureux dont il ne peut plus parler avec joie. Il a aimé, pendant plusieurs années, une femme attachée à lui. Cette femme a vieilli. Mais le roi est bon, il ne peut pas supporter de voir souffrir les gens. Il est beaucoup plus à elle maintenant qu'à l'époque où elle était séduisante. Von Hollen, mon prédécesseur, qui était un peu mon maître, quoique je sois peut-être moins dur que lui, me disait qu'il ne fallait pas faire attention à des souffrances isolées. Il me disait qu'il y en avait beaucoup sur la terre. Il disait encore qu'un homme d'État ne devait jamais regarder autour de lui, trop près de lui. Von Hollen est mort, pauvre et détesté. Il avait une dureté inflexible. Il a refusé des grâces qu'un Torquemada eût accordées. Le jour de sa mort, des habitants de Schönberg n'ont pas eu honte d'illuminer leur maison. Or, il laissait le royaume plus prospère que jamais, deux fois plus riche qu'à la mort de son prédécesseur, le sage et indulgent Berzac. Au fond, continua M. de Herner, il est assez bon pour le roi qu'il ait eu cette histoire dans sa vie. Il a été beaucoup mieux préservé des aventures par la douce et puissante influence de cette femme qu'il n'en eût été détourné par le souci de la majesté royale. Il n'y a aucune pause dans sa vie, ni la moindre affectation de fantaisie. C'est simplement un esprit libre. Or, un esprit libre qui agit simplement s'expose à commettre mille folies. Analysez-moi donc ce paquet de journaux. Il n'y a rien d'important ces temps-ci, mais ce sera pour vous comme un exercice qui vous servira à vous constituer pour l'avenir une méthode de travail rapide. Dans ces derniers mois, comme je n'avais personne, j'avais eu recours à cet imbécile de Bollmoller. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il m'a livré. C'était un fatras, une confusion abominable. Des nouvelles sans intérêt étaient résumées en un texte deux fois plus long que le texte français. « Je vous ai fait allouer 800 francs par mois, » ajouta M. de Herner. « C'est un peu plus que ce qu'on a dû vous dire à Paris, mais nous ne vous connaissions pas. Et d'autre part, j'ai pensé qu'il ne vous serait pas toujours agréable de prendre vos repas au palais. Venez quand il vous plaira à la table de l'intendant, où votre couvert sera toujours mis. Mais ne vous privez pas du plaisir d'aller déjeuner ou dîner en ville. Je ne suis d'ailleurs pas fâchée que vous vous mêliez un peu à la vie de Schönberg. Vous êtes un homme discret. Je sais que rien de ce qui se passe au palais devant vous ne sera divulgué dans la ville. Mais il n'est pas mauvais que l'état d'esprit de la capitale soit pénétré par quelqu'un du palais. » Je remerciai le baron de Herner, comme je remercie les gens, en balbutiant quelques paroles indécises. Mais je sais aussi que ce genre de confusion, que je n'affecte pas, que j'utilise peut-être, est aussi apprécié que quelques phrases correctes et clichés. J'étais assez content que cette latitude me fût laissée d'aller prendre mes repas à droite et à gauche. Évidemment, je me plairais mieux à la table de l'intendant, du moment que l'on ne m'obligeait pas à y figurer. Sans parler de la petite économie qui en résulterait pour moi. Depuis que j'étais un monsieur à son aise, je me sentais devenir un peu plus regardant. La veille, en revenant de chez le roi, j'avais dîné au palais. Je m'étais présenté à 7 heures dans la salle à manger de l'intendance, encore vêtu, par paresse de me déshabiller, de la redingote neuve endossée pour aller chez le roi. J'étais prêt à m'excuser d'être venu en tenue cérémonieuse. Mais je vis que tout le monde était en habit, et je dus m'excuser de n'avoir pas eu le temps de me mettre en toilette de soirée. Bien que le roi ne fût pas au palais, et qu'en son absence aucun protocole n'ordonna le frac, ces gentilshommes de chambre et officiers du palais, par goût de l'étiquette, persistaient à revêtir leur habit de demi-gala. Il y avait là l'intendant, qui portait encore plusieurs titres surannés, tels que « grand officier de bouche ». Un très haut vieillard incapable, que secondait, heureusement pour lui, son épouse, Edwige de Bramhausen, une grande femme aux cheveux très blancs, dont l'air de race était un peu trop classique et qui se montrait d'une âpreté sans exemple avec les fournisseurs. Le grand écuyer était célibataire. C'était un homme de 82 ans, long plutôt que haut, car une définitive courbature l'empêchait de se redresser de toute sa taille. Il était arrivé à cette époque critique où un vieil homme, jadis blond, cesse de se teindre, de sorte que pour exprimer la couleur de sa moustache, de ses favoris et de ses longs cheveux du front qui arrivaient de très loin par derrière, il était bon d'attendre patiemment que cette sorte de mue eût cessé. Comme il avait la vue très basse, il ne montait plus à cheval, mais c'était toujours lui qui examinait les chevaux qu'on amenait aux écuries du roi, lui qui jugeait de leur silhouette en leur caressant la tête, en leur tâtant le garrot et la croupe, et qui s'assurait, en leur palpant les canons, que leurs membres étaient sains. À table, il mangeait les yeux fermés, très lentement, sans un instant d'arrêt. Il buvait à tout petits coups, les lèvres crispées au bord du verre, en sifflant. Ce petit sifflement était le seul bruit qui émana de lui, car il ne parlait jamais. Le chevalier Fink, gentilhomme de chambre et grand majordome du roi, je me perdais dans leur titre, était un gros garçon blond et rasé, dont les yeux tout rapprochés s'embusquaient derrière un tout petit binocle sans monture. Il avait l'air d'un principal clerc affairé et curieux. Il était particulièrement odieux à Sa Majesté, à cause de ses prévenances excédentes et du sourire écœurant avec lequel, à partir d'un certain titre, il écoutait les gens. Aussitôt que le roi était de retour, on violentait tous les usages pour envoyer ce gentilhomme de chambre en voyage, investi de n'importe quelle mission. Le grand écuyer et le chevalier Fink étaient célibataires. Le deuxième gentilhomme de chambre était marié. Sa femme remplissait je ne sais quel office auprès de madame de Bramhausen. Ce couple, qui, avec Bollmöller et l'officier qui se trouvait commander le peloton de garde, complétait la table de l'intendant, semblait chargé d'apporter la note de jeunesse dans cette assemblée de vieilles gens. Lui, fils d'un député récemment anobli, elle, fille d'un usinier des environs de Schönberg, ne se lassait pas, depuis 6 mois, de la joie de manger et d'habiter au palais royal. Aussi remplissaient-ils, en conscience, leur rôle d'oiseaux joyeux, et répondaient-ils avec une grande bonne humeur, d'ailleurs peu communicative, à toutes les questions qu'on leur posait. Personne ne parlait français à cette table, en dehors de Bollmöller, et à cet égard, je savais ce qu'il fallait attendre du précepteur. Il ne me parla pas moins avec volubilité, pour étonner, je crois, les autres, et j'eus la condescendance d'avoir l'air de le comprendre. Le reste du temps, je suivis la conversation animée des convives. Je crois d'ailleurs que l'on se rend mieux compte du caractère des gens quand on n'entend pas ce qu'ils disent, et qu'aucun verbe menteur ne vous induit à vous tromper sur la loi de leur regard et la sincérité de leur sourire. Après le dîner, on alla prendre le café dans un petit salon indien. L'intendant offrait aux fumeurs des cigares où un brin de paille était piqué. Madame de Bramhausen allumait, pour son usage personnel, une cigarette de tabac jaune, fine et démesurément longue. Puis on arrivait fatalement à conduire au piano la jeune personne qui exhalait sa gaieté en une demi-douzaine de valses hongroises. Il y avait longtemps à ce moment qu'on avait couché le grand écuyer. Enfin, on se disait bonsoir et l'on rentrait dans ses appartements. Quand je ne dînais pas au palais, j'allais à ce grand restaurant de la rue de la Paix qui m'avait attiré dès le soir de mon arrivée et qui s'appelait la grande taverne. Je n'avais toujours pas trouvé la petite aventure sentimentale, pas trop gênante et pas trop attachante, que j'attendais depuis mon arrivée à Schönberg. Plus le temps passait, plus je me sentais disposée à me montrer facile sur le charme de la personne inconnue en question. Je n'avais rencontré, en fait, de jeune femme que la jeune mariée du palais. Pas une minute je ne songeais à troubler l'union du jeune ménage. Il n'y avait pas de femme chez le premier ministre. Je n'avais pas revu depuis mon arrivée le comte de Tolberg et je n'étais pas pressée de le revoir, parce que je sentais bien que c'était de ce côté-là que viendraient certaines complications. Je pensais retrouver à la taverne cet insupportable officier, neveu du ministre, qui m'avait parlé d'une nommée Irma et qui devait avoir des amis. Mais il était en permission et s'était en allé pour quelques jours à la campagne. Ces considérations me déterminèrent à choisir une table à la taverne dans les environs de l'orchestre des dames. Quelques-unes étaient encore jeunes et possédaient quelques charmes, abstraction faite, bien entendu, de leurs blonds cheveux, qu'il valait mieux ne pas faire entrer en ligne de compte dans la liste de leurs attraits naturels. Après 3 soirs de patience, je fis la connaissance de la plus agréable de ces dames, qui se trouvait Fix, le chef d'orchestre elle-même. C'était une dame belge de 32 ans, qui avait beaucoup voyagé, qui avait donné des leçons de piano, des leçons de français et fait travailler des animaux dans les music-halls. Elle avait un bel engagement pour diriger un orchestre dans une exposition d'appareils agricoles. Elle allait quitter Schönberg le mois d'après, ce qui me décida à faire avec elle plus ample connaissance. Chapitre 9. Mon aventure avec le chef d'orchestre ne modifia pas ma vie. Il y avait 10 jours que j'avais vu le roi pour la première fois, et il ne m'avait pas rappelé. Le ministre était content de moi. Je faisais régulièrement, à sa satisfaction, mon travail d'analyse. Mais j'avais trop vite réussi dans mes fonctions. Je commençais à trouver ma vie monotone. La suite prouvera qu'il ne faut pas se lasser de sa tranquillité, ni demander au destin un peu d'imprévu. Il nous fait trop bonne mesure. J'étais arrivée à Schönberg un jeudi, et j'avais vu le roi le lendemain de mon arrivée. Il ne me fit demander qu'une dizaine de jours après, c'est-à-dire le lundi, non de la semaine suivante, mais de la semaine d'après. Le petit tonneau, conduit par un jeune cocher anglais, vint me chercher dans la matinée. À ce moment, je me trouvais chez le premier ministre, et j'étais en train de lui lire un résumé que je venais de terminer. Il y avait dans son cabinet le secrétaire d'État de l'Intérieur, von Mullen, un gros homme en baudruche qui s'était élevé aux honneurs comme un énorme ballon sans poids. Le comte de Fritz, petit homme carré d'épaules, arriva l'instant d'après. Il avait la réputation d'un grand tacticien, ayant suivi pendant une dizaine d'années les manœuvres des armes étrangères. Mais comme il n'avait jamais, à proprement parler, fait la guerre, il était difficile de dire de lui que c'était un grand capitaine. On se bornait donc à le traiter de « haute personnalité militaire ». Il venait apprendre à Erner l'exécution d'un soldat des garnisons du Sud qui avait frappé un de ses chefs et dont la grâce, sur les instances de Erner, avait été rejetée par le roi. Quand j'arrivai chez le roi, je fus un peu déconcerté par son accueil. Très aimable, certes, mais pas aussi amical que j'avais pensé. Peut-être après son amabilité de la dernière fois, s'était-il repris. Je me demandais si j'avais fait quelque chose qui lui eût déplu. Peut-être Erner m'avait-il desservi auprès de lui, et cette préoccupation m'assombrit pendant une partie du repas. Il y avait avec nous l'ami du roi, le comte de Ehrenstein, un homme très grand et mince, aux yeux tristes. Je l'avais déjà entrevu à ma dernière visite. Ce ne fut qu'au bout d'un quart d'heure que je me sentis rassurée. Si le roi était de moins bonne humeur, c'était à cause d'une affaire qui ne me regardait pas. Il pensait à l'exécution de ce soldat, dont Erner, la veille, après une longue discussion, lui avait arraché l'arrêt de mort. Le premier ministre avait mis en avant de bonnes raisons et la nécessité de faire un exemple dans cette garnison où l'état d'esprit était très fâcheux. « Il a tort !» fit le roi en brisant avec énergie la coquille d'un œuf qu'il venait de gober. « Il a tort !» Puis il nous dit des choses assez belles vraiment. Il émit des idées très modernes et très civilisées, qui prenaient d'autant plus d'importance qu'elles étaient exprimées par un roi. « Aucune raison, affirmait-il avec énergie, ne doit prévaloir contre la nécessité d'affirmer que la vie humaine est sacrée. » Le comte de Ehrenstein, moins par conviction que pour calmer les remords du roi, fit valoir les arguments les plus célèbres, la nécessité pour la société de se défendre. Mais le roi répondit que le premier devoir d'une société était de ne pas donner l'exemple immoral du meurtre. La boutade bien connue que messieurs les assassins commencent est une des paroles les plus misérables qu'on ait pu prononcer. Le plus coupable n'est pas celui qui commence, mais celui qui continue. Et la société est beaucoup plus coupable que l'assassin, parce qu'il est ignorant et corrompu, tandis qu'elle est savante et polissée. En attendant qu'elle veuille bien commencer à être civilisée, la société se ravale au niveau de cet être barbare. Si la suppression de la peine de mort augmente dans quelques années le nombre des crimes, tant pis, tout vaut mieux que de propager, pendant des temps infinis, cette monstrueuse idée que la société intelligente a le droit de tuer. Puis il parla contre la guerre. Quand on parle de supprimer la guerre, dit-il, on est traité de naïf et d'utopiste. Il est peut-être vrai qu'actuellement ce soit encore une utopie. Mais c'est prolonger le règne de l'utopie que de la traiter éternellement comme telle. Le bon roi nous dit assez de choses très judicieuses et très levées. À nous faire part de ses remords, il les éloignait peu à peu. Nous étions passés insensiblement des régions troubles de la vie dans le domaine plus serein de la spéculation et de la littérature. Le comte Ehrenstein, après le déjeuner, se mit au piano. Ce grand homme mince, au visage un peu bronzé, parlait peu, mais écoutait très bien. La musique qu'il jouait, avec beaucoup d'émotion sur le visage, était d'une passion concentrée, coupée de silence profond. Le morceau finissait toujours lamentablement. Les mains du pianiste demeuraient accablées et comme mortes sur les touches. Elles glissaient du clavier, le comte Ehrenstein tournait sur le tabouret et nous regardait avec un sourire triste. J'aimais mieux être seul avec le roi. D'abord, leur musique ne m'intéressait pas. J'étais ému et transporté pendant une demi-minute. Puis je me mettais à penser à autre chose qui n'avait aucun rapport avec ce qu'on jouait. La fin du morceau arrivait subitement alors que j'étais à 1000 lieues de là. Il fallait se composer tout de suite un visage admiratif. Comme je n'avais pas pris part à leurs émotions, j'avais des tendances à croire qu'elles étaient chiquées. Puis je faisais un retour sur moi-même. Quand je m'exaltais en compagnie du roi sur un poème, c'était pourtant bien sincère. Et cependant, les gens qui ne comprenaient pas notre émotion pouvaient être portés à en nier le bon aloi. Mais si l'émotion du roi et du comte de Ehrenstein était sincère aussi, il était un peu vexant pour moi d'en être exclu. Heureusement que nous allâmes, l'instant d'après, dans le jardin sauvage, où Charles XVI me pria de dire des vers. L'autorité du roi me dispensait de me faire prier. Le comte Ehrenstein m'écouta, les yeux fermés, en hochant de temps en temps la tête d'un air meurtri. Cependant, le caractère de Charles XVI se précisait de plus en plus. Un jour, plus tard, dans un moment d'emportement où il ne se surveillait plus, le premier ministre s'oublia devant moi jusqu'à dire que son maître était un gros paresseux. Il y avait du vrai dans ce jugement un peu brutal. On pouvait discerner certainement beaucoup de paresse dans cette habitude distinguée de rechercher, sans grand choix, des sensations d'art. C'était par une paresse plus grave qu'il n'avait pas disputé à la féroce autorité de Herner la vie du soldat condamné. Mais la faculté qu'il avait d'appliquer ses principes libertaires diminuait la foi qu'il avait en eux. Il se contentait de corriger légèrement le conservatisme de ses prédécesseurs, représenté à la cour par le baron de Herner. Il devait d'autant plus se repentir d'avoir cédé à son premier ministre que l'exécution du soldat Hassen fit très mauvais effet dans la ville où le régiment était en garnison. Des bandes de manifestants parcoururent les rues et allèrent jusqu'à pousser des cris de mort devant la maison de l'officier qui avait présidé le conseil de guerre. Des arrestations furent faites par la police et quelques-uns des manifestants étaient sous les verrous. Il s'agissait de les déférer devant un tribunal. Leurs partisans, qui comptaient sur un acquittement, réclamaient la cour d'assises. Mais le préfet du district, représentant de Herner, voulait les envoyer devant des juges professionnels dont on avait quelques raisons d'escompter la sévérité. J'eus l'occasion de voir, pendant cette période agitée, un Herner que je ne connaissais pas. Cette espèce de férocité autoritaire, que je croyais purement théorique, je la vis sortir sur son visage, comme sort une maladie éruptive longtemps couvée. Un matin, j'étais allée le chercher pour lui dire que le préfet en question était à Schönborg et l'attendait au palais. Je le trouvais chez lui en compagnie de sa mère, et leur ressemblance me frappa encore plus vivement qu'au premier jour. Mais la vieille dame avait encore quelque chose de plus âpre. Ces deux êtres m'étonnaient beaucoup, car avant de les connaître, je ne croyais pas qu'il existât des méchants qui fussent vraiment des méchants. Je croyais qu'il y avait des envieux ou des maladroits, et que les gens qui semblaient agir méchamment ne pensent pas dans le fond d'eux-mêmes d'être vraiment méchants. À vrai dire, le baron de Herner avait toujours cette excuse qu'il semblait agir pour le bien de son pays. Mais il avait vraiment un goût de la vengeance qui était monstrueux, quelque mauvaise opinion qu'on pût avoir de l'humanité. Il aimait obliger les gens, parce que c'était une façon de leur manifester sa puissance. Mais il n'aimait pas le goût de la joie d'autrui. Bien qu'il ne tînt pas au luxe ni à la bonne chère, il détestait tous ceux qui pouvaient s'offrir ses jouissances, à cause du plaisir qu'ils en éprouvaient. Chapitre 10. Un matin, que j'étais en train de lire mes journaux français dans le petit bureau que m'avait fait aménager à côté du sien le baron de Herner, on frappa à ma porte et l'on entra sans que j'aie eu le temps de dire « Entrez ». Un jeune homme, en vêtements clairs, se tenait devant moi, me souriant d'un bon sourire. C'était Henri de Tolberg. « Eh bien, monsieur le secrétaire particulier, il me semble que l'on oublie ses amis une fois qu'on est dans les grandeurs. »« C'est moi qui m'excuse, » continua-t-il en souriant. Aussitôt mon arrivée, cette personne que vous connaissez est allée passer quelque temps chez une tante à elle qui habite un vieux château terrible à 20 lieues d'ici. Il se trouve que je ne suis pas trop mal vue dans la maison, et que cette tante a bien voulu m'inviter aussi, de sorte que nous avons passé 2 heureuses semaines, qui malheureusement sont passées. Mais ce qui nous console, c'est que nos affaires avancent. Quelqu'un de très bien en cour a parlé à la belle-sœur du roi, et le comte de Ehrenstein a dû parler au roi lui-même, qui n'a encore rien dit, mais qui, je crois, va souscrire au divorce. Je ne crois pas que le premier ministre fasse une forte résistance, étant donné les difficultés de l'heure actuelle, qui doivent primer pour lui toute autre préoccupation. Et sans aller jusqu'à prévoir sa disgrâce possible, nous sommes peut-être autorisés à penser que, pour le moment, il cherche à ménager son crédit auprès de Charles XVI, et qu'il ne se soucie pas de heurter la volonté royale pour une affaire qui n'intéresse pas la chose publique. Je sais les arguments dont il s'est servi jusqu'à présent pour justifier sa résistance. Il n'y a eu que 2 divorces à la cour depuis la nouvelle loi, et ces 2 divorces ont fait mauvais effet dans le public. L'un, c'est celui de la princesse Bremingen, qui, après s'être séparée de son mari parce qu'il était infidèle, a trompé elle-même son second mari d'une façon encore plus scandaleuse, de sorte que le tribunal ne sait que faire de leurs petits-enfants. L'autre divorce présente avec celui de mon ami une analogie d'espèce un peu grossière, en ce sens que le mari de la surintendante, avec qui elle a divorcé, était, comme le mari de mon ami, enfermé dans une maison de santé. On reproche à la surintendante d'avoir épousé un homme très riche alors que les affaires de son premier mari étaient en fâcheux état. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'y a rien de semblable dans le cas de mon ami. Son mari a une fortune personnelle beaucoup plus considérable que la mienne. Cette fortune retournera tout entière, en cas de divorce, à la famille du malheureux interné. Le baron de Herner le sait bien. Mais cela ne l'empêche pas d'exploiter auprès du roi le fâcheux effet des 2 divorces précédents. Le roi ne se doute pas naturellement des véritables raisons du premier ministre, mais on les a dites au comte de Ehrenstein, et nous espérons bien que sa majesté en sera informée par lui. Je pourrais peut-être lui en parler aussi, m'écriai-je, sans trop penser à ce moment à la petite vanité de déceler mon intimité avec le roi. Depuis quelque temps, sans que j'eusse contre le baron de Herner des griefs personnels, je me sentais moins liée à lui. Il était vraiment trop différent du roi, avec son énergie presque brutale, son tempérament vindicatif, qui surtout offensait chez moi cette impuissance de rancune, cette tendance à chercher et à comprendre les raisons de l'adversaire, si funeste à un homme d'action qui a besoin au contraire, pour lutter, de toute la force de sa conviction. Je savais très bien que le baron de Herner était un de ces êtres avec qui, dans certains cas, on ne peut pas s'expliquer. Les relations ne sont jamais sûres avec les hommes de ce genre. On est toujours sous la menace d'une rupture possible. Ce sont ces gens dont le vulgaire dit qu'ils ont un mauvais caractère. J'avais dans ma jeunesse un camarade plus âgé que moi qui se fâchait pendant des mois pour un rien. Toute discussion avec lui me faisait trembler. Je craignais toujours qu'elle se terminât par une de ces brouilles si longues et si pénibles pour mon cœur d'enfant. Plus âgé, mais toujours aussi sensible, j'avais pris le sage parti de fuir ces sortes d'amis. Je ne pouvais donc plus hésiter entre Tolberg et le baron, d'autant qu'il ne me semblait pas qu'il existât entre le baron et moi des liens de reconnaissance assez puissants pour que la démarche que j'allais faire auprès du roi, et qui contrecarrait les plans de Herner, pût être considérée comme un acte de trahison envers un bienfaiteur. D'ailleurs, si j'avais pu avoir une hésitation sur la conduite à tenir, elle eût été dissipée le soir même, car j'eus l'occasion de revoir Bertha. C'était au bal du ministre de l'Intérieur. J'avais reçu une invitation, et j'avais d'abord hésité à m'y rendre. C'était une des dernières soirées que le chef d'orchestre passait à Schönbourg avant son départ pour Vienne. Son engagement avec la grande taverne avait pris fin. L'orchestre de dames s'était dispersé et avait fait place à des Hongrois chanteurs qui criaient comme des malheureux de 7 heures du soir à 1 heure du matin. Le chef d'orchestre, qui n'avait pas eu une soirée à elle depuis 3 ans, aurait voulu aller au théâtre de Schönbourg, où l'on jouait ce soir-là un drame émouvant. Je n'ai d'ailleurs jamais vu d'âme aussi naïve et aussi simple que celle de cette dame voyageuse, qui, depuis son adolescence, avait vécu dans tant de villes et joué de divers instruments dans une 50aine de cafés sous des costumes les plus divers. Je lui expliquais, en dînant avec elle, que les exigences de ma profession m'obligeait à me rendre à un bal. Elle avait une âme de fonctionnaire modèle et comprit admirablement mes raisons. À 10 heures, vêtue d'un frac, d'une culotte de gala et ornée, Dieu me pardonne, d'une épée au côté, je me rendis au ministère de l'Intérieur. Les réceptions de M. von Mullen étaient justement renommées. Le ministre avait une fortune colossale, et Madame von Mullen passait pour une personne fort distinguée. C'était une grande blonde languissante, toujours un peu malade, et qui, assise dans un fauteuil comme dans un palanquin, régnait sur une foule d'invités dociles. J'étais un peu préoccupé à l'idée de rencontrer Tolberg en présence du baron de Herner, mais le premier ministre ne fit qu'une apparition très brève. Il paraissait absorbé. Il me serra la main en passant et me dit « Nous irons demain chez le roi. Nous avons une lettre importante à envoyer à Paris. » Il me serra encore une fois la main, comme à son ordinaire, aimablement, mais sans trop d'expansion. Ce fut assez, cependant, pour me donner quelques remords. Au moment où il sortait de la salle d'entrée, je le suivais du regard, je le vis se croiser avec Bertha, qui entrait. Il s'inclina devant elle, elle le salua d'un léger signe de tête, puis il sortit sans se retourner. Le cœur me battit. Je crois qu'à cette rencontre, j'avais eu plus d'émotion qu'eux-mêmes. Je n'osais aller présenter mes hommages à la jeune femme avant l'arrivée de Tolberg. C'était par un vague souci de convenance, mais surtout par timidité. En attendant l'arrivée du jeune comte, je me promenais dans la maison. La première impression de luxe qui m'avait ébloui en entrant se trouvait passablement modifiée quand on examinait en détail ces fonctionnaires étriqués et ces industriels à la forte encolure. Quant à l'aristocratie du Bergensland, elle n'était guère plus distinguée dans la majeure partie de ses échantillons, dont la noblesse était pourtant de vieille souche. Elle présentait cependant quelques beaux produits, comme Bertha et le comte de Tolberg. Mais Madame Orff, la femme du banquier, qui était la fille d'un marchand de bois, avait un visage extrêmement délicat, des gestes harmonieux et des attaches très fines. Et le fils Kiefer, dont le père avait débuté dans la vie en vendant des journaux dans les gares, le fils Kiefer, gagnant du prix des habits rouges au concours hippique, avait la noble dégaine d'un gentilhomme de race. Bollmoller se cogna dans moi. Il portait une épée, ce qui me donna le désir de retirer la mienne. La devanture de son œil droit tombait de plus en plus, vu sans doute l'heure avancée. Mais son œil gauche redoublait de lumière. Il s'était fait friser les cheveux et ondulait la barbe. Il avait emprisonné dans des bas de soie des mollets qui n'étaient pas, semblait-il, de la même dimension. Il se tenait dans les environs du buffet, qu'il butinait inlassablement, telle une abeille diligente. J'eus également la satisfaction de voir le grand écuyer qui s'était assis dans la salle de jeu auprès d'une table de whist. On ne savait toujours pas si ses yeux étaient fermés ou si quelques regards glissaient à travers une mince rainure. Je ne l'avais jamais vu qu'à table, mais je pus constater que même en dehors des repas, ses vieilles mâchoires obstinées continuaient leur lent travail de mastication. Il avait mis une culotte, comme la plupart des invités, mais il n'avait pas cherché à dissimuler sa noble et invraisemblable maigreur, et ses longs canons desséchés ne remplissaient point l'étui pourtant bien étroit de ses bas de soie blancs. De temps en temps, il passait sur son crâne et sur son visage sa longue main tremblante, claquait des dents deux ou trois fois et recommençait à ruminer. Comme j'étais en train de regarder les joueurs, quelqu'un me frappa l'épaule. Je vis, en me retournant, la figure souriante du jeune comte de Tolberg. « On vous demande par là-bas. » Puis il m'entraîna doucement jusque dans un salon voisin où Bertha nous attendait en compagnie d'une vieille parente. La jeune femme me sourit, en me voyant, comme un véritable ami. Quand elle me souriait ainsi, aucune autre considération n'existait plus. Je crois que j'aurais trahi Erner, même si j'eusse été unie à lui par des liens de la plus inextricable reconnaissance. Bertha vous souriait comme une compagne d'enfance. Il semblait qu'on l'eût toujours connue. Tolberg, ayant pris à son bras la dame âgée et l'ayant menée pieusement vers le buffet, je restai seule avec l'ami de mon ami. J'étais heureux, au fond, de penser qu'elle était à un autre. Rien ne m'obligeait à me faire aimer d'elle. Je pouvais donc l'aimer en toute sécurité. Je m'abandonnais à la joie d'être séduit. Je l'écoutais parler et lui parlais en toute confiance. Elle m'interrogea sur mes impressions de Schönberg, et je lui contai avec une sincérité éperdue et heureuse, comme un confesseur, tout ce que j'avais éprouvé depuis mon arrivée dans la ville. Je lui parlai du roi, du premier ministre, en lui disant, ce qui me soulagea beaucoup, tous les scrupules que j'avais éprouvés à l'idée que je serais peut-être obligée de trahir mon maître, même au profit d'un homme que j'aimais beaucoup, comme Henri de Tolberg. Toute réticence avec elle était impossible. Il me semblait, quand je lui parlais, que mon âme était de verre et que rien ne lui eût échappé de mes plus secrètes intentions. elle me dit à son tour toutes ses préoccupations, et elle ne fut jamais plus charmante que pendant ses confidences. Elle apparaissait le plus souvent comme une personne très sage, très judicieuse, et à d'autres moments, elle avait dans le regard l'ingénuité d'une petite fille de 12 ans. Elle disait enfantinement « N'est-ce pas? Je ne pouvais pas faire autrement !» Elle n'avait jamais l'air sûre d'elle-même, et cependant, elle ne donnait jamais l'impression qu'elle hésiterait quand elle se trouverait en présence de certains devoirs. Je sais très bien qu'on se fait de belles illusions sur les vertus d'une femme quand on la voit pour la première fois et qu'elle est très belle. Mais je dois dire que rien dans la suite n'est venu infirmer cette bonne opinion que j'avais eue de Bertha. Quand Tolberg revint, après avoir mis la vieille dans un lieu sûr, à un baccarat, je crois, on décida que l'on souperait tous les trois à la même table. Ce n'était peut-être pas prudent à cause de Herner. Sans doute il se trouverait quelqu'un à la suite de cette soirée pour mettre le premier ministre au courant de notre intimité. C'était dangereux pour moi et pour mon avenir à la cour de Schönberg. D'autre part, en affichant mon amitié avec Tolberg et Bertha, je me mettais en moins bonne position pour les servir utilement à la cour. Mais ni l'un ni l'autre nous ne pûmes écouter les conseils de la prudence, tant nous étions contents d'être ensemble. Ce qui pouvait nous arriver de pis, semblait-il, c'eût été de nous quitter. D'ailleurs, le baron ne sut jamais que j'avais passé la soirée avec son ennemi et la femme qu'il aimait. Il paraissait inévitable qu'il l'apprît. Nous fûmes aperçus par plus de 50 personnes de son entourage, et il ne sut jamais rien de cette sorte d'escapade. Il est vrai que les événements graves qui se passèrent les jours suivants eurent de quoi détourner son attention. J'étais allée, en entrant, présenter mes hommages à la maîtresse de maison. Elle m'avait salué avec condescendance, comme on salue un vassal ignoré. Mais je fus ramenée à elle pour une entrevue plus sérieuse par son mari lui-même, le ministre de l'Intérieur et des Finances. J'ai honte de dire que cet homme d'État, qui suivait un régime très sévère contre l'embonpoint, passait la soirée à conduire des dames au buffet pour s'alimenter lui-même, tout heureux de pouvoir tromper, à la faveur de cette fête, l'attention de sa femme et de son médecin. Monsieur von Mullen arrivait à s'exprimer en français, mais au prix d'efforts énormes qui le mettaient littéralement en sueur. Sa femme savait certaines phrases plus coulantes, mais je crois, d'après le long sourire monotone qu'elle avait en vous écoutant, qu'elle ne comprenait strictement rien de ce qu'on lui répondait. Une longue conversation était difficile entre nous. J'avais pris le parti de sourire, comme elle, sans rien dire, mais je ne savais pas comment m'en aller. Une dame passa, en ce moment, qui ne sut jamais pourquoi la ministresse, dans son besoin de me quitter à tout prix, se précipita sur elle avec tant de bonne grâce. On soupait par table de 8 et de 4 couverts. Tolberg, après s'être assuré une table de 4, eut l'excellente idée de me procurer une compagne de souper, qui n'était vraiment gênante pour personne. C'était une jeune femme de Leipzig, vaguement cousine de Bertha, et qui ne parlait et ne comprenait que l'allemand. Je pus être galant, avec elle à peu de frais, grâce à quelques épithètes aimables que j'avais apprises durant les 10 stériles années d'allemand que j'avais tirées au collège. Quand mes souvenirs me faisaient défaut pour distraire la dame allemande, je me rattrapais en lui mettant le plus de victuailles possible sur son assiette. Nous nous étions attablés dans un salon qui n'était pas le salon d'honneur et où le personnel, composé d'extras, ne gênait pas les invités. Ceux-ci se servaient eux-mêmes de 2 ou 3 plats froids qu'on avait posés et laissés à leur discrétion sur la table. Cette dame de Leipzig eût été assez jolie si elle avait eu des sourcils moins larges et moins épais. Elle mangea beaucoup et but tout le champagne. « Soyez sage en la reconduisant chez elle, » me dit Bertha en regardant dans une autre direction pour n'avoir pas l'air de parler d'elle. Son mari, qui est un haut fonctionnaire allemand, n'est presque jamais chez lui. Je ne crois pas qu'elle tienne beaucoup à lui, mais je suis sûre qu'elle ne pense pas à avoir des amants. Elle travaille constamment à des ouvrages de broderie. Elle ne sait ce que c'est que de s'ennuyer ni de se distraire. Quand elle a fini de broder des têtes d'oreiller, elle commence un chemin de table. Ne la détournez pas de sa vie tranquille. Je me mis à rire et je protestai de mes intentions pures. Et la vérité est que je ne songeais pas à mal avant que Bertha ne m'eût parlé de cela. Mais à partir de ce moment, je me mis à penser qu'il allait peut-être se passer quelque chose dans la voiture. Et je versai un peu de champagne à la dame de Leipzig, dont les bonnes joues rouges et les yeux animés brillaient à l'envi. J'écoutais un peu distraitement ce que me dirent mes amis, et je commençais à me demander jusqu'à quand durerait la fête. Je ne savais pas à quel hôtel était descendue cette dame. Peut-être était-ce tout près du ministère. J'étais toujours très distrait quand on se leva après souper. J'écoutais mal le rendez-vous que me donna Tolberg. Bertha dit en allemand à son amie que j'allais la reconduire. Puis elle me répéta en français « Vous allez reconduire ma cousine à son hôtel ». Je ne pus m'empêcher de rougir et je m'inclinai respectueusement. J'allai chercher au vestiaire le manteau de soirée de la dame de Leipzig et avec beaucoup de trouble, je l'aidai à passer les manches. Quel est-il arrivé? Je préférais ne pas y penser, ne rien prévoir, attendre tout du hasard. Au cas où l'aventure irait assez loin, ça deviendrait tout de suite plus compliqué. Je ne pouvais pas l'emmener au palais et je n'avais pas de chambre en ville. J'étais peu familiarisée avec les hôtels du pays. Descendre à son hôtel avec elle me paraissait assez difficile. Elle y était sans doute trop connue. C'était compromettant. Le mieux était de se fier au hasard. Nous trouvâmes à la porte du ministère une de ces calèches de forme surannée qui font à Schönberg le service de nos voitures de remise. Je donnai au cocher l'adresse de Muncherhof, où la dame me dit qu'elle habitait. Je ne savais pas au juste si c'était loin ou près, et je n'osais le demander au cocher, avec les quelques mots que je savais de la langue du pays. Il fallait donc, dans le doute, ne pas perdre de temps, et mettre tout de suite à profit les instants disponibles. Je pris la main de ma compagne et la lui serrai doucement. Puis je m'approchai d'elle et je lui dis « Ich liebe Sie » sans autre préparation. Mais ma connaissance imparfaite de la langue allemande m'interdisait l'art savant des gradations et des nuances. D'ailleurs, cette façon de brusquer les choses fut assez efficace et je créai par cette prompte entrée en matière un trouble que ma délicatesse française, avec ses ménagements timides, n'aurait pas su provoquer. À la faveur de cette émotion, je m'approchai plus près encore. Ma compagne me rendit mes baisers en soupirant. J'avais passé mon bras derrière son dos quand elle se mit à sangloter. Je voulus lui dire tendrement « Ne pleurez pas !» Mais je ne savais plus du tout comment on dit « pleurer » en allemand. Je me bornai à répéter « Nein, nein !» Elle commença à pleurer si fort que je la lâchai décidément, et je ne sus que lui tapoter doucement les mains pour la calmer, en souhaitant désormais que le Muncher Hotel fût tout près de là. La voiture s'arrêta enfin. Il me sembla convenable de prendre cette dame dans mes bras et de lui baiser les joues avec beaucoup de tendresse et de ferveur. Puis, je sus lui dire en allemand « Je viendrai vous voir ». Je la fis descendre de voiture avec les précautions dont on entoure une personne très souffrante. J'attendis quelques instants que la porte fût ouverte, puis je baisai la main de la personne avec tout le tact et toute la galanterie française. Comme le cocher me ramenait au palais, je me pris à me demander si cette crise de larmes était, comme je l'avais pensé, une révolte ou bien simplement une manifestation nerveuse qui n'atténuait en rien le consentement qu'on avait semblé me donner. Il me fut insupportable de penser que je m'étais trompée et que ma réserve discrète, au lieu de toucher cette dame, avait pu lui causer une certaine déception. Agacé par cette idée et ne pouvant terminer la soirée sur cette impression fâcheuse, je donnai un contre-ordre au cocher et je me fis conduire à l'hôtel où habitait le chef d'orchestre.